Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour 2 heures d'infos avec vous et avec l'ensemble de la rédaction. Ce soir à la une, les médecins menacés de mort sortent du silence. Des blouses blanches reconnues sont visées, leurs familles également depuis de nombreux mois sur les réseaux sociaux. Pire, la semaine passée, un article complotiste, anti-vax, a jeté des noms en pâture sur Internet. Parmi ces noms, Stéphane Gaudry, chef adjoint d'un service de réanimation. Il sera avec nous à 18h15. La vaccination, plus que jamais en ce moment, sujet de crispation. J-8 avant le pass sanitaire obligatoire pour les soignants à l'hôpital. Mais la campagne, vous allez l'entendre ce soir, patine totalement. Les chiffres des injections n'évoluent plus. Les autres titres de l'actualité maintenant, à suivre dans votre journal. Cher Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un suspect libéré par des complices, de policiers blessés ou comment une opération anti-drogue a tourné court hier à Marseille, soulevant de nombreuses questions. L'ouverture demain du procès des attentats du 13 novembre. 20 accusés. Qui sont-ils? Leur parcours et leur profil dans un instant. Dans ce journal aussi, l'hommage national à Jean-Paul Belmondo en préparation. Ce devrait être jeudi en fin d'après-midi. Et puis ce serait bien que ça s'arrête, les matchs nuls des Bleus. La France face à la Finlande ce soir, 20h45. Les courses dans le Quintet tout à l'heure à Auteuil. Il fallait jouer le 8, le 4, le 16, le 14 et le 7.
Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, RTL va vous emmener aujourd'hui au plus près des résistants, des résistantes même en Afghanistan. Notre envoyé spécial est en ce moment à Kaboul et dans la capitale et d'autres grandes villes, les talibans ont ouvert le feu aujourd'hui sur des manifestants. À suivre aussi, laissez-vous tenter. Dernière avec une soirée télé spéciale, Jean-Paul Belmondo, forcément, toutes les chaînes s'adaptent. Alors du cinéma d'auteur au film d'action, vous aurez l'embarras du choix ce soir. 18h40, on va défaire le monde, 20 minutes pour apprendre, l'actu avec un autre œil avec vous, Cyprien Sini et votre bande de curieux, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Le programme.
Ce soir dans On défait le monde, une grosse tuile pour Ségolène Royal, beaucoup d'argent passif virtuel au Salvador et des choses que vous ne savez pas encore sur Jean-Paul Belmondo, si il y en a.
Ah oui, il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Oui. À 19h15, on va refaire le monde du débat, des prises de position autour d'Éric Brunet. On reviendra notamment sur ses menaces de mort envers des soignants réputés. Et puis tout au long de l'émission, évidemment, des points réguliers sur le temps. Avec vous ce soir, Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance, toujours chaud.
Chaud, mais orageux à l'ouest surtout, et ça restera beau à l'est avant l'arrivée des orages en soirée.
Le détail à la fin du journal, à tout de suite.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Le temps presse, ils n'ont plus qu'une semaine et pourtant, les derniers soignants non vaccinés ne semblent pas pressés de recevoir leur première dose.
Qui leur permettra de continuer à travailler à partir de mercredi prochain, date l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale, une échéance qui ne semble donc pas inquiéter les derniers réfractaires, car chez les professionnels de santé, Agathe Landé, la vaccination ne progresse plus.
Exactement, si on regarde d'abord chez les soignants en ville, 7% n'ont reçu aucune dose et ce chiffre n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière, si cela ne progresse pas d'ici mercredi prochain. Cela voudra donc dire que 50 000 d'entre eux ne pourront plus travailler. On parle là des généralistes, des médecins spécialisés, des dentistes ou encore des infirmiers et sages-femmes en ville. Si on regarde ensuite dans les hôpitaux, 13% des soignants n'y sont pas encore vaccinés. Là aussi, c'est autant que la semaine dernière. Enfin, dans les EHPAD, on note une toute petite progression puisqu'on est passé en 7 jours de 87 à 88% de primo-vaccinés. Au total, selon le ministère de la Santé, dans les hôpitaux et les EHPAD, 300 000 soignants ne sont toujours pas vaccinés.
Une précision signée Agathe Landé pour RTL. D'ores et déjà, les fédérations hospitalières anticipent un éventuel manque de personnel, se disant prêtes à se retourner vers des intérimaires ou des contractuels, voire même à réduire un peu l'activité. Son activité à lui ne lui permet pas normalement de demander à ses salariés de présenter un pass sanitaire. Et pourtant, envers et contre tout, un patron francilien est bien décidé à l'imposer, même si son personnel n'est pas en contact avec le public et que le ministère du Travail l'a déjà mis en garde.
Je trouve tout à fait juste que le ministère du Travail s'intéresse aux agissements d'un dirigeant d'entreprise. Je ne suis pas inquiet dès lors qu'on comprendra qu'il y a quand même une situation lunaire voire ubuesque, sur le fait que une entreprise ne peut pas demander à ses salariés d'avoir un pass sanitaire qui leur permettra de pouvoir intervenir au sein d'un établissement où le pass sanitaire est obligatoire.
Alors voilà pour les explications du patron de Blue Linea. On précise que c'est une société de téléassistance qui emploie une centaine de personnes à Élancourt dans les Yvelines. Mourad Jabari, vous vous êtes rendu sur place dans cette entreprise pour RTL. Les salariés qui vont devoir, là, avec ce patron qui les force, qui leur force la main, présenter leur pass le 1er octobre prochain, ils en disent quoi ?
Eh bien, cette décision est plutôt bien acceptée par la majorité des salariés. 90% sont vaccinés, même si la méthode pose quand même question. Et autour de la machine à café, le débat se fait à voix basse, en chuchotant de peur de passer pour un anti-vax auprès de ses collègues, voire d'être mal vu par le patron. Ce technicien, par exemple, ne se déplace jamais au domicile des personnes âgées.
L'imposition du pass sanitaire, déjà dans sa globalité par l'État, j'ai trouvé ça un peu dur. Personnellement, je me suis pas fait vacciner, donc je serais arrivé au travail sans me poser la question si c'est imposé ou pas. C'est juste que là, je dois du coup me presser pour me faire vacciner.
Pour espérer pouvoir franchir le portique d'entrée de l'entreprise le 1er octobre prochain, les délégués syndicaux refusent aussi de s'exprimer. Tous préfèrent rester anonymes. Le pass sanitaire est logique pour le directeur de l'entreprise, vous venez de l'entendre, afin de protéger les salariés, mais aussi les clients, ces retraités isolés. Une décision que partage cette standardiste, mais l'obligation du pass, selon elle, n'est pas nécessaire.
Moi, je me suis demandé, en fait, comment est-ce qu'on pouvait reprocher à un patron de vouloir plus de sécurité pour ses employés. Après, je trouve ça difficile, en effet, d'imposer, de sanctionner comme ça. Je trouve ça difficile. Mais voilà, c'est le problème quand on a des responsabilités.
Les salariés le précisent, à aucun moment, ils ont senti une pression exercée par la direction, mais ils auraient préféré un peu plus de communication.
Mourad Jabari à Élancourt pour RTL. Forcément, cette décision de ce patron, précisément, elle pose moult questions sur la légalité, notamment de cette mesure, des questions auxquelles on va tenter de répondre avec la brigade RTL dans moins d'un quart d'heure sur RTL. Pour l'heure, 18h06 et 3 jours après la visite en grande pompe d'Emmanuel Macron à Marseille, la promesse aussi de nouveaux effectifs, voilà un incident qui pose la question des méthodes de la police face aux trafiquants.
Avec des opérations anti-drogue à répétition, avec de petits effectifs pour perturber les points de deal. Hier, lors de l'une de ces opérations, deux policiers ont été blessés. Étienne Baudu, vous êtes à Marseille pour RTL. Un suspect est même parvenu à se faire la malle.
Ah oui, les policiers ont été confrontés à une quinzaine d'individus ultra-violents qui sont venus à proprement parler libérer ce suspect. Trois équipages de la brigade spécialisée de terrain, donc 9 fonctionnaires en tout, interviennent hier en début d'après-midi sur un des points de vente de la cité, la troisième intervention en une semaine. Leur objectif, interpeller le charbonneur, celui qui vend la marchandise, pour désorganiser le trafic. Alors qu'il tente de fuir, ils l'interceptent, le menottent et le font s'asseoir alors que leurs collègues fouillent les parties communes à la recherche de caches de drogue. Mais le jeune interpellé crie à plusieurs personnes qui se sont attroupés de venir le libérer. Ni une ni deux. Elle fonde sur les trois policiers avec des bâtons. L'un des fonctionnaires est blessé à la tête. Il aura 10 points de suture. Le jeune dealer arrive lui à s'échapper. Autour du cou, sa sacoche, d'où s'échappent des liasses de billets, 540 euros en tout, et sans doute plus à l'intérieur. Malgré ce policier blessé, ce n'est pas une première à Marseille. Eddie Cid du syndicat SGP-FO Unité Police estime que cette méthode coup de poing est la bonne.
Aujourd'hui, donc, on harcèle les trafiquants quotidiens et ça permet effectivement, quand nous les harcelons, vous savez, ils n'harcèlent pas les habitants de ces quartiers. Voilà, la réalité, elle est là. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, ils surréagissent, ils sont beaucoup plus belliqueux. Donc, nous allons nous réadapter à cela.
Et les policiers attendent donc avec impatience les renforts promis par le président de la République la semaine dernière, 200 fonctionnaires d'ici la fin 2022.
Étienne Baudu à Marseille pour RTL. À Paris, le braquage à la mi-journée d'une bijouterie de la place Vendôme. Deux des braqueurs ont été arrêtés, butin estimé 10 millions d'euros.
Il va commencer demain et c'est un procès comme la France n'en a jamais connu. 9 mois d'audience pour une nuit d'horreur. La justice s'apprête à rouvrir la douloureuse page des attentats du 13 novembre 2015.
1800 parties civiles, plus du 330 avocats et 20 accusés. Bonsoir Cindy Hubert.
Bonsoir.
Vous allez suivre ce procès pour RTL. On a beaucoup parlé évidemment de Salah Abdeslam, seul membre du commando terroriste encore en vie. Mais il ne sera donc pas seul à la barre. Et ce qui est marquant, Cindy, c'est que contrairement à beaucoup d'autres procès liés au terrorisme, on n'a pas ici que de lointains complices présumés.
Oui, vous allez le découvrir au fil des semaines, mais on est très loin du procès des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, Hyper Cacher. Vous vous en souvenez peut-être, certains avaient parlé de petites mains. Et tout le débat était de savoir s'ils savaient qu'ils aidaient des terroristes. Ici, dans le dossier du 13 novembre, il y a des accusés qui ont été en Syrie, des combattants chevronnés. Le plus haut gradé dans le box s'appelle Osaya Krayem, suspecté d'avoir été membre d'une unité d'élite de Daesh. Il a été identifié comme l'un des bourreaux d'un pilote jordanien, brûlé vif dans une cage en Syrie. Et puis il y a aussi Mohamed Abrini, peut-être le 11e homme des commandos. La veille du 13 novembre, trois voitures quittent Bruxelles pour la région parisienne. Abrini est dans ce convoi de la mort, mais il repart subitement en taxi à minuit. Il réapparaît en mars 2016, le jour des attentats de Bruxelles. Abrini pousse un chariot rempli d'explosifs à l'aéroport, mais il s'enfuit sans déclencher sa bombe.
On vous retrouvera pour RTL tout au long de ce procès, Cindy. Hubert, merci. La menace n'est pas levée pour le cimentier Lafarge. La Cour de cassation demande à la Chambre de l'instruction de se prononcer sur une éventuelle mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Le groupe étant soupçonné d'avoir versé plusieurs millions d'euros à des groupes terroristes pour maintenir son activité en Syrie au plus fort de la guerre.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec un hommage qui se prépare et une revanche à prendre. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL, 18h12. Le calendrier se précise. Les obsèques de Jean-Paul Belmondo seront donc célébrées vendredi matin, au lendemain d'un hommage national aux Invalides.
Un hommage sur lequel l'Élysée travaille encore en ce moment avec la famille et les derniers détails sont en train d'être réglés, hein, William Galibert.
Oui, des discussions qui pour l'essentiel ont eu lieu directement entre la famille Belmondo et le couple Macron. On peut parler d'amitié puisque le président, son épouse Brigitte et la famille de Jean-Paul Belmondo se côtoient régulièrement depuis 2017. Alors les derniers détails à régler. D'abord, l'horaire de cet hommage, d'après les informations de RTL, il devrait avoir lieu jeudi en fin d'après-midi. Pour le reste, vous savez, un hommage national, c'est un moment très codifié avec forcément une Marseillaise, une sonnerie aux morts et un éloge funèbre prononcé par le chef de l'État. La famille Belmondo souhaite que du public puisse accéder aux coursives des Invalides. Pour les autres, ce sera un écran géant qui sera installé. Un moment simple et populaire, c'est ce que désirent les proches de l'acteur. Un peu à l'image de la cérémonie d'hommage à Charles Aznavour, où simplement quelques notes de piano étaient venues rompre le silence dans la cour d'honneur des Invalides.
Et avant l'hommage national, l'hommage d'une autre icône du cinéma français. Je l'aimais, écrit Brigitte Bardot, je pense à lui, il me manque.
RTL, 18h13. Bon, il va falloir se réveiller. Hein. Les Bleus espèrent ce soir mettre fin à cette mauvaise série de 5 matchs consécutifs sans victoire.
Rendez-vous à partir de 20h45 contre la Finlande au Parc OL. Et toute la question, Philippe Sansfourche, vous êtes à Lyon pour RTL, c'est de savoir si les Bleus entendront l'appel à la révolte lancé hier par leur capitaine Hugo Lloris.
Oui, cette révolte des joueurs espérée depuis l'Euro est désormais urgente, indispensable même pour sécuriser déjà la qualification en Coupe du Monde, mais aussi pour donner un peu d'air à un sélectionneur ciblé par la critique. Didier Deschamps, moins heureux dans ses choix, moins convaincant également dans sa communication. Heureusement, suppléé, c'est le moment par son capitaine Hugo Lloris qui se porte garant ce soir de l'état d'esprit.
Chacun d'entre nous, nous avons conscience de la situation. C'était peut-être pas forcément le cas avant le match de l'Ukraine, donc le match devient encore plus important. Et je parlais du fait de se relever ensemble. Peut-être qu'on pensait que ça allait arriver plus vite que prévu. C'est pas le cas, mais il faut pas s'affoler. Je crois qu'il faut rester serein malgré tout et faire encore plus d'efforts.
Pour vaincre la Finlande qui s'était imposée il y a moins d'un an au Stade de France, mais dans un match amical, sans enjeu ce soir, toute autre ambiance, c'est le couteau entre les dents que les Bleus comptent investir. Un Groupama Stadium à guichet fermé, près de 60 000 personnes sont attendues ce soir.
Philippe Sansfourche, on vous retrouvera tout à l'heure à 20h40 pour suivre donc ce match en direct sur RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Eh bien, les fêtes de soleil et de ciel bleu, et puis un peu de grand air aussi en ce début de semaine avec des chaleurs remarquables. 34,5 degrés enregistrés aujourd'hui sur la dune du Pilat.
Il y a un peu d'air là-haut. Hein. Un peu d'air. Non, non, faut y aller, hein. Faut y aller, n'hésitez pas.
Non, mais je l'ai fait déjà. Hein.
Ouais, alors, ça vous plaît?
Ça me plaît, bien sûr, c'est magnifique.
C'est bien. On est arrivé hier soir.
Vous arrivez en plein été alors que c'est septembre.
C'est pas grave, vous vous plaignez pas, nous en Normandie, on est déjà au mois d'octobre.
Comme chez nous, nous pareil. Vous aussi. Nous pareil, ouais. Ouais, les soirs on descendait à 4-5 degrés.
la nuit. On est de la Loire, on est des Stéphanois.
Ah ben il y a combien, 8-15 jours. Et là on est passé à l'été, c'est
et
parfait.
Ben, et ben voilà, ça réchauffe un petit peu des propos recueillis par Denis Grandjou sur la dune du Pila. Pour
choc thermique effectivement, merci Marion, à tout à l'heure. Peggy, tiens, je me tourne vers vous. C'est normal là, de telles températures comme
c'est vrai
ça.
Les températures sont remarquables aujourd'hui. C'est assez incroyable. On a même battu des records. Ah. Marion parlait 34,5 degrés sur la dune du Pila. La Rochelle 34,4 degrés. Le dernier record date de 2005. En Bretagne aussi, on a battu des records. À Quimper, par exemple, il a fait 31,1 aujourd'hui. Ouf, comme
ils
vous
vont
dites.
Le payer.
Et ben oui, parce que demain ça rebaisse. On perd quasiment 10 degrés parce que les orages vont arriver à également Ploudalmezeau dans le Finistère. Je prononce bien.
Joli port de pêche.
Très bien. 31,6 degrés cet après-midi, mais du côté de la Bretagne, on va perdre quasiment 10 degrés, je vous le disais, demain. Pourquoi ? Parce que les orages arrivent.
D'accord. Et donc, par l'ouest.
Par l'ouest, exactement. Et déjà cette nuit, les orages vont arriver sur la façade atlantique. Demain, dans la matinée, on les retrouvera entre la Bretagne et les Charentes. Ces averses orageuses vont gagner les Pyrénées et se décaler vers l'est lentement dans l'après-midi. Toute la moitié ouest sera concernée. Et les régions plus à l'est, jusqu'en Champagne, la Bourgogne, ce sera plutôt en fin de journée. Donc d'ici là, vous aurez le temps de profiter du soleil. Attention, parce que ces averses orageuses seront localement fortes, parfois accompagnées de grêles. Et après le passage des pluies sur la côte atlantique, on trouvera quelques éclaircies. On pourrait avoir également une petite averse sur les Alpes. Les températures donc en baisse à l'ouest, mais encore douces et chaudes ailleurs. 23 à Brest, 31 à Paris, ce sera la maximale. 31 également à Marseille et à Lyon. Il ne fera plus que 25 degrés à Nantes. On va se rapprocher des normales, ainsi qu'à Biarritz.
Merci beaucoup Peggy.
Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, 18h17, RTL Soir pour vous servir. On va questionner maintenant le pass sanitaire. Pourquoi ? Parce que vous l'avez entendu un petit peu plus tôt dans ce journal sur RTL. Une entreprise des Yvelines qui s'appelle Blue Linea, une entreprise de téléassistance à la personne, veut imposer ce pass à ses salariés. Et d'ailleurs, le patron assume. Tiens, on le réécoute.
Je suis très mal à l'aise sur un sentiment, se dire que peut-être on laisse déambuler des techniciens qui ne sont pas détenteurs d'un pass sanitaire au milieu d'un EHPAD où tout le monde s'est protégé, et en aucun cas j'aimerais que cette équipe soit à l'origine d'une contamination.
Alors, est-ce que c'est un cas isolé ? Est-ce que cette idée va faire tache d'huile ? Est-ce que c'est légal ? On va poser toutes ces questions, trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Pierre Herbulot.
Bonsoir.
Ce patron, est-ce qu'il est hors la loi ?
Alors oui, la loi votée au mois d'août à l'Assemblée nationale est très claire, je vais vous la citer. Hein. Nul ne peut exiger d'une personne la présentation d'un pass sanitaire hors cas prévu. Les cas prévus, on en a déjà beaucoup parlé sur RTL. En fait, ce sont les salariés qui travaillent au contact du public dans les lieux où le pass sanitaire est imposé. Ouais. Le serveur d'un café, l'ouvreur d'un cinéma, mais pas les salariés de l'entreprise de téléservice de Laurent Levasseur. Les équipes du ministère du Travail ont d'ailleurs pris contact avec lui pour le lui rappeler et pour le mettre en garde.
Qu'est-ce qu'il risque ?
Une amende de 45 000 euros et même un an de prison. C'est la sanction maximale, mais il y a peu de chances que ça aille jusque-là. Si ce patron demande effectivement le pass sanitaire en octobre, alors il recevra une petite visite de l'inspection du travail et sera mis en demeure. Ouais. C'est seulement s'il persiste qu'il sera sanctionné.
Dites-nous, cette volonté d'imposer le pass sanitaire alors qu'on n'est pas forcément autorisé, est-ce que c'est une tendance dans le monde de l'entreprise ?
Disons que oui, certains patrons aimeraient que le pass sanitaire soit obligatoire en entreprise, même si ce n'est pas la volonté du MEDEF. Hein. Alors, pas pour avoir accès au carnet de santé des salariés, mais pour limiter les risques d'avoir un collaborateur cloué au lit ou à l'isolement pendant une semaine. Je discutais avec une avocate spécialisée dans le conseil aux entreprises.
Ouais.
Beaucoup de patrons l'appellent pour lui demander ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire. Mais le mot-clé « amende » refroidit clairement tout le monde. Donc, le souhaiter, oui, passer à l'acte, c'est une autre histoire.
Les explications de Pierre Herbulot de la brigade RTL. Merci beaucoup, Pierre. Une pause. Et ensuite, RTL Soir revient. La vaccination, plus que jamais, on vient de l'entendre, sujet de débat. Parfois, le débat dérape totalement. Des médecins réputés sont menacés de mort sur les réseaux sociaux, sur des sites complotistes aujourd'hui. Ils disent stop. L'un d'entre eux, Stéphane Gaudry, chef adjoint d'un service en réanimation, sera notre invité juste après ça, tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL 18h23. Et ce soir, sur notre antenne, un médecin menacé de mort dit stop. Depuis des mois, de grands soignants réputés sont visés, attaqués sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'ils militent pour la vaccination. La semaine passée, une tribune complotiste a même jeté plusieurs noms en pâture. Ces blouses blanches contre-attaquent. Une conférence de presse s'est tenue aujourd'hui. Parmi ces noms divulgués sur la toile, il y a le vôtre, Stéphane Gaudry. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le chef adjoint du service de réanimation de l'hôpital Avicenne à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Dites-nous, ces menaces, elles existent depuis de longs mois ?
Oui, elles existent depuis le début de la crise. Enfin, quelques semaines après le début de la crise, on a commencé à recevoir certaines menaces qui étaient plus ou moins violentes. Avec deux événements, c'est l'hydroxychloroquine dans un premier temps et puis la vaccination dans un deuxième temps. Et à chaque fois, c'est la même chose, ça vient à peu près des mêmes personnes. C'est lorsqu'on explique tout simplement les données de la science qu'on se fait... On se fait agresser, on va dire, verbalement et voire menacer de mort par le site France Soir récemment.
Et il s'agit de menaces de mort. Vous recevez sur les réseaux sociaux des menaces de mort. Vous êtes visé, votre famille est visée?
Alors, moi, personnellement, ma famille, non, mais certains de mes collègues ont vu leurs enfants menacés sur les réseaux avec des messages qu'on reçoit. Et moi, personnellement, oui, je reçois des lettres, parfois manuscrites ou des messages via les réseaux sociaux. Alors, à partir de là, bon, on peut dire considérer que c'est pas, on ne va pas relever le problème tout de suite, mais à partir du moment où ces menaces émanent d'un site complotiste qui est extrêmement lu et qui est relayé par un certain nombre de personnes qui ont également une certaine audience comme Didier Raoult, et bien dans ces cas-là, ça devient quelque chose d'extrêmement grave parce qu'il y a un risque majeur de passage à l'acte.
Oui, parce qu'il y a les menaces envoyées, on va dire, individuellement par des personnes anti-vaccins sur les réseaux sociaux, et puis il y a cette tribune, vous l'avez noté, sur le site complotiste France Soir. Vous y êtes cité donc avec d'autres soignants reconnus comme Karine Lacombe du Conseil scientifique. On peut y lire « La veuve s'impatiente », référence à la guillotine. C'est signé d'un mystérieux médecin qui se dit résistant, et effectivement c'est relayé par Didier Raoult en personne. Est-ce qu'avec les autres soignants visés, vous avez porté plainte, vous comptez porter plainte?
Alors un certain nombre d'entre nous ont déjà porté plainte, et puis bon, d'autres sont en train de prendre des conseils juridiques pour savoir un peu de quelle manière il faut mener une action en justice contre ces personnes qui relayent, en effet, comme vous le dites, on va dire des appels à la violence. Alors c'est sous couvert de, ils justifient en disant qu'il y aura un procès. C'est parce que depuis un certain temps, il y a un hashtag qui vient sur Twitter, qui est l'hashtag Nuremberg 2. Vous imaginez un petit peu l'ambiance. En expliquant qu'il va falloir un procès et que il y aura des peines capitales pour les gens comme nous qui ont relayé les données de la science et essayer d'informer nos concitoyens.
Dans ce contexte, Stéphane Gaudry, ma question elle est très personnelle, mais est-ce que vous partez le matin travailler à l'hôpital avec la peur au ventre ?
Écoutez, moi, à titre personnel, non. Peut-être que je suis, peut-être que c'est anormal, mais je sais que certains de mes collègues sur lesquels il y a eu encore plus de pression que moi peuvent quand même parfois en effet avoir peur. Moi, à titre personnel, non, parce que j'ai un métier dans lequel il y a beaucoup de stress déjà, et donc je suis amené à gérer ce genre de stress. Mais ma famille, en tout cas, est un peu stressée, oui.
Vous bénéficiez d'une protection, Stéphane Gaudry ? Vous l'avez demandé ?
Non, j'ai pas demandé de protection. J'ai demandé une protection dite fonctionnelle à mon employeur. Protection fonctionnelle est en fait correspond à une protection juridique, si vous voulez, autour de ce problème-là, et encadre un petit peu les problèmes qu'il peut y avoir de menaces de mort et de procédures juridiques qui peuvent être autour de tout ça.
Stéphane Gaudry, vous êtes chef adjoint, on l'a dit, d'un service de réanimation à l'hôpital. Est-ce que dans votre service, vous avez soigné des anti-vaccins radicaux ? Est-ce que vous avez échangé avec eux ?
Alors, en fait, les personnes qu'on prend en charge sont donc la quasi-totalité sont des gens non vaccinés en réanimation, et la plupart en fait regrettent de ne pas s'être fait vacciner et sont des victimes de la désinformation criminelle qui est relayée par des sites comme François, mais également par des hommes politiques comme Philippot ou Dupont-Aignan. Et donc ces gens-là regrettent, et je pense qu'ils ont un statut de victime qu'ils devraient défendre, parce qu'ils ont été victimes de la désinformation de ces personnes-là. Et il y a très rarement un anti-vax très militant qui explique préférer vouloir mourir du Covid que d'être vacciné. Bon, écoutez, ça, ces gens-là... Je ne suis pas là pour les convaincre, en tout cas.
Dernière question, Stéphane Gaudry. On sait que l'obligation du pass sanitaire pour les soignants entre en vigueur dans 8 jours. On l'a constaté à l'instant dans le journal de 18h, on l'évoquait, le chiffre des injections ne bouge plus du tout. Est-ce qu'il y a encore des récalcitrants dans votre hôpital, dans votre équipe ?
Alors, dans mon équipe, c'est inexistant. Par contre, dans l'hôpital, il y a quelques cas encore de récalcitrants. Mais il faut savoir que, premièrement... les décisions qui ont été prises, qu'à partir du 15 septembre, il y aura des suspensions, vont être effectivement prises. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et deuxièmement, ces décisions de suspension n'affecteront en rien le fonctionnement de l'hôpital, puisqu'il s'agit de cas très très rares de personnel qui ne souhaitent pas se faire vacciner.
Merci Stéphane Gaudry d'avoir été notre invité sur RTL ce soir pour nous raconter donc ce déferlement de haine qui vous touche personnellement, vous le chef adjoint du service de réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Merci d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Une pause, RTL Soir ensuite continue dans les dessous de l'actu. On va vous emmener à Kaboul, où notre envoyé spécial sur place a rencontré des manifestantes qui osent défier les talibans. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Allez, chaque soir à cette heure-ci, dans les dessous de l'actu, nous sommes vos yeux, nous sommes vos oreilles pour vous faire découvrir les coulisses des titres à la une. Alors ce soir, nous vous emmenons à Kaboul, en Afghanistan. Bonsoir Marc Clément.
Bonsoir.
Vous êtes notre envoyé spécial il y a 48 heures maintenant. Vous avez pu entrer dans ce pays désormais aux mains des talibans et vous avez rencontré pour RTL des résistants, ceux qui osent défier les islamistes, parce que c'est notable. Malgré la répression à balles réelles, plusieurs manifestations se sont tenues dans les rues de la capitale aujourd'hui et ce sont notamment des femmes qui ont tenté de se rassembler.
Eh bien, il y avait beaucoup de cris, des chants, des pancartes et puis surtout un courage absolument inouï. Elles étaient à peu près une centaine de femmes réunies devant l'ambassade du Pakistan pour à la fois dénoncer le soutien que l'Islamabad apporte aux talibans et puis aussi pour dénoncer les talibans eux-mêmes et pour réclamer leurs droits, tout simplement, comme cette jeune femme à peine majeure.
Nous ne voulons pas de l'ingérence d'autres pays en Afghanistan. Nous ne voulons pas ici de gens qui ont tué nos mères et nos sœurs. Nous sommes venus ici pour protester parce que nous voulons nos droits. Mais les talibans ne nous laissent pas en avoir. Les femmes devraient être autorisées à faire partie du gouvernement.
Marc, on l'imagine, les talibans ont réprimé ces défilés.
Alors il y a eu beaucoup de tirs de sommation. Les talibans semblaient complètement dépassés par la situation. Et pour vous donner une idée du chaos qui régnait un peu aujourd'hui, eh bien imaginez que quand je suis rentré à mon hôtel, après avoir couvert ces manifestations ce matin, eh bien, j'ai découvert deux impacts de balles dans la vitre de ma chambre et j'ai trouvé quatre balles logées dans le plafond de ma chambre d'hôtel, juste au-dessus de mon lit, ce qui vous donne un peu une idée du chaos et du fait que les talibans font à peu près n'importe quoi, ils tirent dans tous les sens. Et ça, c'est évidemment très inquiétant pour les manifestants qui, eux, promettent qu'ils vont continuer à manifester.
Nous avons un message pour les talibans. Ne dépassez pas les limites, sinon nous allons vous faire tomber. Ne dépassez pas les limites.
Il avait fallu aux talibans que quelques semaines seulement pour conquérir l'ensemble de l'Afghanistan. Mais ce qu'aujourd'hui ces manifestations démontrent, c'est qu'il sera peut-être encore plus difficile de conquérir les Afghans.
Oui, manifestations d'ailleurs désormais interdites. Les talibans le précisent officiellement ce soir. Ils interdisent aussi aux journalistes de les couvrir. Merci Marc Clément, vous, notre envoyé spécial RTL, pour cette plongée ce soir dans les dessous de l'actu, aux côtés des résistants, des résistantes dans les rues de Kaboul.
RTL Soir,
les dessous de l'actu. Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr. Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, on va changer de séquence maintenant, si vous le voulez bien. Place à Laissez-vous tenter, dernière. Vous connaissez le principe. Les jolis conseils de la joyeuse bande de Laissez-vous tenter pour occuper vos soirées. Alors, dans un instant, avec vous, Isabelle Morini-Bosque, bonsoir.
Bonsoir.
On va s'intéresser au programme télé de la soirée. Programme, évidemment, quasiment 100% Jean-Paul Belmondo, parce que toutes les chaînes ont décidé de s'adapter et de rediffuser de grands films du magnifique. C'est vraiment une soirée qui est attendue par des millions de Français qui sont peut-être en train de nous écouter là sur RTL, parce qu'on a découvert notamment, et on a envie de vous faire réécouter quelques témoignages dont les auditeurs ont la parole à la mi-journée sur RTL, à quel point vous aviez été touché par Jean-Paul Belmondo. Certains d'entre vous, comme Vladimir et Sébastien, petit extrait, ont même eu la chance de le rencontrer.
Je l'ai rencontré la première fois en 1990. Je devais aller le voir en Cyrano. Et puis à la fin du spectacle, au bout de 3 heures, j'ai monté les petites marches de l'entrée des artistes du Théâtre Marimni de l'époque. Je suis tombé nez à nez avec lui qui descendait. Je lui tends fébrilement la photo que j'avais pu avoir. Il me dit « Vous venez d'où ?» Ben, je dis « Je viens d'Auxerre ». Et tout de suite, il a dit « Ah, Auxerre, la ville de Giroud ». Et on a parlé football.
Il a fait la bise à mon épouse. Et à l'époque, mon épouse lui a dit « Vous savez, c'est le plus beau cadeau que vous lui faites de vous rencontrer. On va se marier. » Et je crois que c'est un des plus beaux cadeaux de mariage. Il m'a serré la main, il m'a dit « Félicitations ». Et je suis reparti comme un gamin. Voilà. J'ai pu rencontrer mon idole de quand j'étais gosse.
Voilà, on comprend mieux à travers vos témoignages, vous les auditeurs au 3210 sur RTL, à quel point l'histoire d'amour entre Bébel et les Français était forte, était immense, à quel point ses destins se sont entremêlés. Autant dire qu'il faut répondre à la demande. Donc Isabelle, ce soir, toutes les chaînes de télé, ou presque, adaptent leur programme. Alors, ce qui a déjà été le cas hier soir, parce que ça a été extrêmement rapide, les chaînes ont été extrêmement réactives hier soir pour modifier leur programmation et faire de la place, en quelque sorte, aux œuvres de Jean-Paul Belmondo.
Absolument. D'habitude, elles font des spéciales dans les infos, ouais, et elles réservent au lendemain, quand elles l'estiment nécessaire, l'hommage. Or là, dès 20h50, TF1, L'As des As, La 2, L'itinéraire d'un enfant gâté, W9, ont toutes bouleversé leur programme. C'est assez notable pour être remarqué, et pour 8 millions de téléspectateurs au total, ce qui était bien. Et ce soir, sur La 2, Le Professionnel de Lautner à 21h, ouais, suivi du À bout de souffle de Godard, avec évidemment cette réplique célèbre.
Si vous n'aimez pas la mer, pas la montagne, si vous n'aimez pas la vie, allez vous faire foutre.
Canal Plus, elle, programme Belmondo le Magnifique. Puis, mais on peut préférer l'autre chaîne du groupe, C8, qui propose L'Alpagueur de Philippe Labro, suivi de la comédie de Philippe de Broca, Le Magnifique, deux chefs-d'œuvre. Reste que c'est Paris Première qui en fait le plus, avec une nuit complète Belmondo. Et ah une oui, complète avec Belmondo, ça ne se refuse pas. Elle commence par Le Marginal de Jacques Doré.
J'aimerais bien essuyer mes semelles sur ta gueule.
C'est amusant, ça, je trouve.
Tu peux y aller, je suis vierge. Continue, connard, et tu vas être vierge et martyr.
Voilà, suivent à 22h45 L'Héritier, puis deux films documentaires Belmondo l'Influenceur, 0h45, et Belmondo le Goût du Risque, 1h45. Et je terminerai par cette phrase qu'on a rappelée ce matin et qu'il me disait souvent, je suis né avec le moral et je le garderai jusqu'au bout.
Exactement. Et ça a été le cas. Et on aura le moral ce soir en regardant les films de Jean-Paul Belmondo. On a le choix. Alors là, vraiment,
ah
il y a
oui,
de tout.
Complet.
Il y a du cinéma d'auteur, il y a des films
absolument
d'action. Voilà, ça va être formidable cette soirée télé, faites votre choix, et si vous voulez passer la nuit avec Jean-Paul Belmondo, Paris Première, donc on l'a bien compris. Merci beaucoup, chère Isabelle, on vous retrouvera demain avec toute la bande de Laissez-vous tenter pour la quotidienne, 9h-9h30, c'est tous les matins. Sachez que demain nous aurons l'occasion d'écouter le nouvel album de Soprano. En attendant, il est 18h38, vous écoutez RTL Soir et on va dans un instant défaire le monde jusqu'à 19h avec la fine équipe, Cyprien Sini, Céline Landreau, Arthur Asquin, Laurent Tessier. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
Bonsoir
à tous.
Dans un instant, au moment où les appels à relancer la campagne de vaccination se multiplient, on en a déjà beaucoup parlé depuis le début de cette émission, c'est vrai qu'elle stagne hein, cette campagne, on va se poser une question toute simple. Au fait, à quoi ça sert le vaccin ? A tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.